Radio Campus.
Ça vous fera pas de mal un peu de chasteté.
Champion des ondes, votre rendez-vous sportif mensuel sur Radio Campus Orléans. Une heure d'actualité, d'interviews et de jeux sur le 88.3 FM, en radio numérique terrestre et sur orléans.radiocampus.org. Champion des ondes.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Orléans pour la première de Champion des ondes, l'émission qui vous parle de sport. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui car il y a Guillaume pour m'accompagner. Salut Guillaume, comment ça va ?
Salut Malo, salut Chris, salut à notre gladiator du soir. Écoute, ça va très bien.
De quoi est-ce que tu vas nous parler toi Guillaume aujourd'hui ?
Eh bien, je vais être surtout axé sur le calendrier des différentes équipes autour d'Orléans. Et il me semble que je vais faire un petit focus sur le rugby club
Orléans. Sur le RCO tout à l'heure, ouais. Et toi Chris, salut, comment tu vas ?
Salut à tous, heureux d'être là ce soir avec vous. Alors moi, je vais faire un petit jeu.
Un petit quiz
qui va mêler un petit peu l'actualité de l'été dernier, un peu des JO, mais surtout le
sport local.
Voilà, c'est le plus important, c'est Orléans quand même.
Et bon, le dernier, notre invité, notre gladiator du soir, Jérém, salut, comment tu vas toi ?
Eh ben moi ça va comme toujours, très très bien, merci de l'invitation et bonjour à vous les gars.
T'es prêt pour le quiz tout à l'heure ?
Bon, on va faire du mieux qu'on peut en tout cas quoi.
Ouais, faut pas que tu te loupes sur le hand, attention.
Le hand ça devrait le faire, le reste ça va être peut-être un peu compliqué.
Juste avant de revenir et de parler donc du quiz de Guillaume avec le calendrier, on va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis septembre, parce que nous aussi c'est notre rentrée, comme les clubs de sport. Et on va commencer par un petit récap de toute l'actualité qui a pu se passer ici à Orléans, dans la région. Et on va commencer avec le gros club de la région, l'US Orléans, le début de saison qui est parfait pour ce club de foot, donc de National, 3e division française, 3e, 18 points. Pour rappel, c'est les deux premiers qui accèdent directement à la Ligue 2. Le 3e aura un match de barrage, aller-retour un peu plus compliqué, on en reparlera au cours de l'année si tout se passe bien. Et franchement, on croise les doigts, ils ont aussi passé leurs deux premiers tours de Coupe de France, donc on ira peut-être les suivre un peu plus loin. Pourquoi pas contre Paris, comme l'année dernière, on espère, on croise les doigts. Pour le basket, l'OLB, leur début de saison est un petit peu moins enthousiaste, ils sont 5e en Pro B. Faut que je rappelle qu'aujourd'hui, on est en pré-enregistré, c'est la première émission de l'année, mais donc on n'a pas encore le match de ce soir. L'OLB qui reste pour l'instant donc sur 4 victoires, 2 défaites, ils sont éliminés malheureusement en Coupe de France contre Angers. Cette saison en deuxième division, elle est un petit peu complexe parce qu'il y a des grands play-offs, donc c'est 10 équipes qui peuvent accéder à la première division. Comme pour l'USO, on vous en reparlera tout au long de l'année, ne vous en inquiétez pas. Pour le RCO, je vais lancer Guillaume, le fan et le spécialiste autour de cette table du rugby. D'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai vu, les débuts sont parfaits. 6 victoires, 1 défaite, c'est comme l'année dernière, tout roule pour le RCO.
Ouais, c'est exactement ça. On a un début de saison, on rappelle que le RCO est promu cette saison en National 2 après une saison l'année dernière en Fédéral 1 où ils ont roulé sur le championnat, éliminé malheureusement en demi-finale par l'équipe de Mauléon. Et donc une première saison donc cette année en National 2 où les ambitions ont été clairement affichées dès le début de la saison par le président, les joueurs et le staff, l'ambition de monter directement en National 1. Et donc pour le moment la saison est parfaite comme tu l'as dit, une seule petite défaite à Bédarrid et sinon le dernier résultat en date, une victoire sur la pelouse de Genève, champion de France de Fédéral 1 l'année dernière. Qui était invaincu à domicile depuis plus d'un an, donc pour l'instant tout roule.
On va croiser les doigts et on va les suivre bien évidemment tout au long de la saison. Je vais finir avec le sport masculin, avec Saint-Privé, il fallait que j'en parle, le foot de National 2, Saint-Privé qui est dans le groupe du club mythique, les Girondins de Bordeaux qui sont eux pour l'instant 10e, mais pour Saint-Privé ça se passe bien mieux, ils sont 2e avec 19 points, c'est le premier qui monte pour l'instant, c'est Saint-Malo, ils ont un petit point de retard, mais comme pour le reste, on va les suivre tout au long de la saison, et on espère évidemment qu'ils vont peut-être pouvoir raccrocher le wagon de l'USO en 3e division française de foot. On va parler maintenant un peu plus du sport féminin, on va revenir sur l'USO avec les filles qui a connu un début de saison assez compliqué, mais bon, on s'y attendait avec une baisse de financement, le club qui a failli disparaître alors qu'elle s'était maintenue l'année dernière. Elles sont 10e sur 11 aujourd'hui. Le match crucial, il est dimanche prochain contre Rodez, le 11e. Guillaume nous en parlera un petit peu tout à l'heure, je pense, normalement. Et malgré tout, elle reste sur une défaite encourageante, j'aime pas trop ce mot, mais contre Le Mans, où elles se sont pris un petit but à la 90e. Bon, bah, c'est pas grave, un point de perdu, mais il y en aura plein d'autres. Et pour la suite, donc, on espère qu'elles vont réussir à se maintenir et que l'US Orléans leur débloquera peut-être un peu plus de fonds, on verra bien. Pour le volley, maintenant, on va changer de sport, on va parler des Comètes. Des Comètes qui connaissent aussi un début de saison un petit peu compliqué. 4 matchs, 1 victoire, mais pas d'inquiétude, la saison est encore longue. Et il faut venir encourager ces filles, notamment à l'Agronaute, c'est une très belle salle avec un très bon niveau, une superbe ambiance. Tout comme les Panthères, les féminines de Fleury au hand, elles sont 7e sur 12 pour l'instant en National 1, c'est la 3e division de hand féminin, mais elles sont invaincues, et oui c'est possible, à cause des pénalités extra-sportives qu'elles ont eues en début de saison. On se rappelle quand même qu'elles sont championnes de France en 2015, vainqueurs de la Coupe de France aussi en 2014, Coupe de la Ligue en 2015-2016, c'est un très gros club de la région qu'on suivra. Elles ont notamment participé à une Coupe d'Europe, notamment la Champions League en 2016, et on les encourage vraiment sur cette lancée, elles qui, on espère, pourront peut-être grappiller d'échelons en fin d'année. Et pour clore ces actus, on va parler d'un événement qui a eu lieu récemment sur Orléans. C'est notamment l'Open d'Orléans, le tennis. Alors, est-ce que cette musique vous dit quelque chose ? Cette musique, c'est celle de l'Open d'Orléans 2024 qui a eu lieu la semaine du 23 septembre. Quelques grands noms étaient présents comme Richard Gasquet, Denis Shapovalov, tous deux anciens joueurs du top 10 mondial. Le tournoi, c'est un challenger. Alors pour faire simple, c'est comme une deuxième division avec des joueurs qui se classent aux alentours de la 100e, 200e place mondiale. Le tournoi est uniquement masculin, c'est un petit peu dommage, mais il y a des matchs de double et de simple, et il dure une semaine. Cette année, le court principal se situait à Comet, et on a eu le droit à une magnifique ambiance, poussée par les jeunes qui sont venus encourager. On a eu aussi des moins jeunes également qui sont venus supporter Harold Maillot, le finaliste du tournoi. La première surprise de l'Open aura été la victoire d'Emery au premier tour contre Richard Gasquet, lui qui a annoncé sa retraite quelques semaines plus tard. Preuve que le niveau est assez homogène, comme nous en parle le vainqueur du match.
Je suis vraiment content de mon entrée en matière. Maintenant, chaque joueur est différent. Chaque joueur va être difficile à battre. C'est quand même un très gros challenger avec sur la liste pas mal de grosses têtes d'affiche. Donc, non, je m'enflamme pas plus que ça, mais c'est avec plaisir que je gagne ce premier tour.
Calvin Emery nous a également évoqué, à la fin de son match, son plaisir de jouer ici devant son public.
C'est sûr que ça fait super plaisir de jouer dans un jeu comme ça. Maintenant, je dois avouer qu'en France, franchement, on a pas mal de beaux centraux, donc je commence à avoir l'habitude. Maintenant, c'est sûr que ça fait un petit quelque chose. Comme je disais, c'est toujours plaisant de jouer à domicile. Dans des conditions comme ça, bah, t'as envie de donner ton meilleur, quoi. Mais donc, je suis vraiment content d'avoir une nouvelle opportunité de jouer devant tout ce beau monde.
Malheureusement pour lui, il se sera incliné au tour suivant contre l'Estonien Marc Lajal. Malgré ça, plusieurs Français auront brillé cette semaine-là, comme Harold Maillot, donc le finaliste. Il nous a parlé de la clé de sa réussite, et ça pourra vous surprendre, mais il ne nous a pas parlé de technique.
J'ai commencé à travailler avec un préparateur mental qui voyage avec moi, qui va voyager de plus en plus avec moi. C'est vraiment mon axe de travail prioritaire aujourd'hui, travailler l'attitude, le mental, la stabilité émotionnelle. Voilà, ça va être le prochain axe de travail sur les prochaines années. Je sens que c'est ça qu'il me faut pour essayer de passer un nouveau cap. Voilà, c'est que le début, mais voilà, j'espère apprendre vite et monter au classement vite.
L'aspect mental est donc primordial au tennis, et ça, je crois que Sacha Guémard et Benjamin Bonzi, les victorieux du double, l'ont bien compris, comme le montre leur décision de s'inscrire à un nouveau double juste après leur victoire. Écoutez, c'est assez amusant.
Ouais, on a signé un contrat pour Juan.
Je crois que j'ai réussi. J'ai réussi. Ouais. Ça va peut-être me coûter le price, mais...
Justement, la ville, c'était si ça gagne, on continue, c'était...
Non, ça s'est fait.
Non, ça s'est décidé là, sur le terrain, en 32 secondes.
Voilà.
Et justement, vous en parliez tout à l'heure, c'est cet harcèlement, comment ça s'est passé justement votre union
Non, alors je tiens à remettre quand même, alors parce que là on est sur du harcèlement, je veux juste remettre les idées droites, voilà. Ça fait, je crois, 3 semaines que je demande à Ben de faire les doubles.
4.
4, allez, on va peut-être tirer à 4. 3,5, je te l'accorde.
Et c'est cette bonne ambiance-là que l'on veut garder de ce tournoi. Avant de clore cette page Open d'Orléans, on tient tout de même à féliciter Jacob Fiendley, le Britannique, pour sa victoire, et la paire Benjamin Bonzi-Sacha Gaiman pour leur victoire en double. Avant de passer à l'entretien avec notre invité du jour, j'aimerais soulever avec vous, Guillaume, Chris, Jérém, si tu veux intervenir, tu peux, l'épineuse question du financement des sportifs. On le sait, les champions, ils ont beaucoup de sponsors, beaucoup de prize money, beaucoup d'argent. Mais pour le reste, notamment à l'échelle locale, c'est un peu plus compliqué. Quel regard vous portez sur cette question du financement des sportifs? Qui veut commencer, Guillaume, peut-être?
Je te laisse commencer.
Ouais, bah, c'est, comme tu l'as dit, c'est une question assez compliquée parce qu'on a des vraies différences, comme tu l'as dit, entre les sportifs de très haut niveau qui ont un nombre impressionnant de sponsors, etc., et des sportifs plus locaux qui ont du mal à se financer. On l'a vu dans l'agglomération, on a quand même pas mal de sports et d'équipes qui connaissent des difficultés financières. Et à côté, on a par contre des sportifs, des clubs qui sont financièrement plutôt à l'aise. Donc ouais, ça pose quand même la question des aides régionales, des aides locales pour certains clubs qui malheureusement sont en difficulté.
Chris, tu veux ajouter quelque chose?
Ouais, bien sûr, moi je suis totalement d'accord avec cette question. En tout cas, il faut absolument que même les villes, hein, je sais que les villes peuvent aussi subventionner les athlètes locaux un peu moins connus. Il y a des partenariats qui peuvent se faire. Voilà, le sportif fait ses performances et puis il peut faire la promotion de la commune, par exemple. Et il faut vraiment essayer d'amener ces sportifs locaux à se faire connaître, parce que c'est ça aussi ce qu'on attend de pas tout le temps voir le haut niveau, mais aussi voir nos sportifs locaux et faire briller aussi une certaine mentalité autour du sport.
Et on sait qu'il n'y a pas forcément que les sportifs, que les clubs. Là, je me tourne vers Jérém. Pour les institutions, pour les associations plutôt, comme les Gladiators, comment ça se passe, vous, le financement? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce que c'est uniquement les bénévoles qui viennent et qui font des dons, par exemple? Je ne sais pas du tout.
Donc nous, on a décidé, en fin de compte, d'être 100% autonome tout en travaillant avec le club. Et nous, on vit essentiellement de nos adhésions et également de ce qu'on peut faire tout au long de l'année au niveau de la manifestation, comme les tombolas où on garde une petite partie des tombolas et on reverse l'intégralité à d'autres associations qui en ont plus besoin, on va dire, que nous. Par exemple, on a travaillé avec les poudrées roses là, il n'y a pas très longtemps. Les blouses roses, ça va arriver également. On a travaillé avec un arc-en-ciel pour Clara. Donc nous on aide également ces associations qui en ont vraiment besoin, et le club, eux, nous aide sur la partie abonnement, voilà. Ils nous font des tarifs au niveau de l'abonnement.
Juste petite question, vous recevez absolument pas de subvention de la part de la métropole ou de Saran, par exemple?
Nous, on pourrait faire une demande, mais on n'a pas fait cette demande parce qu'on part du principe qu'il y a d'autres associations qui en ont plus besoin que nous.
D'accord, super.
Et si quelqu'un qui nous écoute, par exemple, veut vous aider, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Dans l'association, payer des t-shirts, je sais pas. Qu'est-ce qui vous rémunère le plus, vous?
Ouais, totalement. Donc nous, on est preneurs de tout partenariat associatif. Il faut juste nous contacter, donc soit en passant par votre radio, ou sinon directement en venant sur notre page Facebook Les Gladiators ou Instagram Les Gladiators, et on saura se mettre en relation pour leur présenter un petit peu les projets qu'on a dans les mois à venir.
Ok, très bien. Merci beaucoup, Jérém. Je vais peut-être enchaîner sur... Ok, il y a la régie qui me montre le temps qui reste. Je vais continuer sur cette question. Comment vous pensez que nous, en tant que personne qui va regarder du sport, qui va venir voir des matchs, on peut influer sur cette question-là? Par exemple, j'aimerais rebondir sur l'exemple des Panthères avec les féminines qui se sont retrouvées il y a quelques années à quasiment tout gagner en France, à jouer des matchs de Champions League. Et est-ce que vous pensez que, malgré le fait qu'elles soient dans une période un peu plus compliquée, le fait de venir les soutenir, ça peut grandement les aider?
Ouais, je pense clairement que malheureusement, donc on a eu cet événement-là qui a fait chuter un peu un monument quand même du handball féminin. Mais je pense quand même que c'est pas pour ça qu'on doit arrêter d'aller les voir jouer. Au contraire, je pense que c'est dans ces moments-là justement que les handballeuses ont besoin justement de de supporters, d'un public présent à chaque match à domicile et même peut-être faire certains déplacements. Donc ouais, il faut encourager le plus de monde possible à aller les voir jouer leur match à domicile, en tout cas au moins.
Et en parlant de déplacements, je me tourne maintenant vers les Gladiateurs. Je sais que, alors c'est un peu particulier parce qu'il me semble que c'est la première fois cette saison que vous commencez à faire des déplacements. Comment ça se finance tout ça? C'est uniquement dans votre poche à vous?
Alors les déplacements, ça fait pas que depuis cette saison, on a commencé déjà depuis
les années d'avant.
Les années d'avant, et on s'est construit en 2023, donc c'est, on va dire, beaucoup plus structuré depuis 2023. Sinon, nous, c'est purement avec, on essaye de trouver toujours des bons compromis. On a également créé une fédération avec tous les groupes de supporters de France, où on s'entend super bien, et ça nous permet également d'avoir des visibilités sur un plan de vue local pour nous donner des bons plans, et de toute façon c'est nous qui nous payons en tout cas les nuits d'hôtel, les trajets, les frais de déplacement, et les billets on essaye de les financer par les Gladiators, donc par l'association Les Gladiators, ou sinon le club nous les finance également avec un nombre de places qu'ils ont gratuit quand ils se déplacent.
Ok, très bien, merci beaucoup. On va maintenant passer à notre première pause musicale. Tout de suite, on va retrouver Nadir Laverse sur Radio Campus Orléans.
Toute l'après-midi, des doutes j'ai laissé. Ce groove m'apaise, ce groove m'apaise. Devant le micro, rare moment où je trouve la paix. À quoi bon rester si je suis blessé? Faut que je bouge ou que je m'ouvre la tête. M'ouvre la tête. Je me retrouve plus dans le dépit, plus que les esprits déménagent. On crée des toiles, près des étoiles. Ça cherche à s'éclipser des caches. Je parle de mon mal-être comme d'un ami. Grâce à lui, je crache du feu dans la cabine. Cette nuit, je ne dors pas, j'analyse. J'attends que le fantôme me fasse avaler.
Les pensées vicieuses serpentent dans ma tête. Derrière les nuages, de loin, je sens la verse. La merde, on la prend tant qu'on nous la sert. Sous un lampadaire, le soir je fous la merde. Les pensées vicieuses serpentent dans ma tête. Derrière les nuages de l'ange sans la verse. La merde on la prend tant qu'on nous la sert. Sous un lampadaire, le soir je fous la merde. Putain de vide, pas de quoi s'en tirer. J'avais plus de temps hier, je me brusque, remplis le cendrier, ma vision s'empire, ouais. Je me drogue à la vitesse, ça va trop vite, tu guettes le 4 ans, j'avance, je perds mais j'apprends, mes parents s'indignent à dire qu'est-ce que t'attends, buzz. Spécimen, canalise émotion, j'ai peur de savoir qui je suis, si je les libère, trop d'hommes se disent porteurs de vérité, tard le soir j'ai vu des lampes se délier, faire des nœuds jusqu'à pas d'heure, alimenter le manque, décide, ta vie t'en est le centre, réside, la mienne manque de sens. Sous un lampadaire le soir je fous la merde, goût amer, déçu de l'homme, je roule la selle, je trouve à mort fort, même sous la verse, violence et artifice pour calmer. Je suis arraché dans le périmètre, c'est pas la vie que j'avais prédimée, il m'en faudra plus pour me délivrer. Fini l'époque où j'hésitais, c'est piché.
Les pensées vicieuses serpentent dans ma tête. Derrière les nuages de loin je sens la verse. La merde on la prend tant qu'on nous la sert. Sous un lampadaire le soir je fous la merde. Les pensées vicieuses serpentent dans ma tête. Derrière les nuages de loin je sens la verse. La merde on la prend tant qu'on nous la sert. Sous un lampadaire le soir je fous la merde.
vous êtes bien toujours sur Radio Campus Orléans, champion des ondes, la première de l'année. Tout de suite, alors, on va parler avec l'invité du jour, l'invité des Gladiators, Jérém. On a pu t'entendre déjà un petit peu avant. Comment tu vas, Jérém, après, malheureusement, cette défaite des Septors, quand même, hier, on est sur une passe un peu difficile en ce moment.
Oui, alors te dire que tout va bien, je te mentirais, je suis pas là pour mentir, j'ai levé la main droite et dit je le jure sur ce que j'allais dire. Non, mais plus précisément, voilà, je suis un petit peu triste, mais pas abattu, quoi, parce que clairement je sais le potentiel de cette équipe et je sais qu'elle va réagir très rapidement, quoi.
Juste avant de parler des résultats, tout ça, on va peut-être un peu plus parler de l'association. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça est né avec les Septors?
Ouais, totalement. Donc en fin de compte, les Gladiators, tout d'abord, on est les supporters officiels des Septors. Les Septors, c'est l'équipe professionnelle du Saran Loiret Handball qui joue en deuxième division du championnat de France.
La Pro League.
De la Pro League de handball. Donc nous, on s'est créé en association en 2023, en janvier 2023, où on était une dizaine de copains à aller voir régulièrement les matchs en amont. Et on voyait que, voilà, on mettait bien l'ambiance, on rigolait bien, ça prenait bien au niveau du club. Et on s'est dit, bah tiens, vas-y, comme ça, on va lancer une association. Pourquoi pas lancer une association? Donc, on a créé une association. Et dès qu'on a créé l'association et qu'on mettait l'ambiance au niveau de l'Halle, Jacques Mazouka, et ben, ça commençait à venir. On voyait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient aussi dans l'attente de créer ça, tout en travaillant également avec le club, donc avec essentiellement Corentin à l'époque, qui nous a facilité la vie et qui nous a bien aidé sur la construction, mais également avec mon ami Francis, qui était le speaker du club, qui nous a bien aidé également dans la construction de notre association. Et donc de 10 par la suite, on est passé à 20, puis on est passé à 30, puis on est passé à 50, jusqu'à 86 à l'heure actuelle.
C'est un beau chiffre, 86, et ça va encore grandir ou pas? C'est l'objectif.
Nous, on se refuse rien. L'objectif, c'est de remplir un palais des sports maintenant, parce qu'on joue au palais des sports d'Orléans, avec que des abonnés, pourquoi pas que des Gladiators. Nous, en tout cas, on se refuse rien et on refusera jamais personne. Le principe, c'est de mettre l'ambiance, mais également le côté convivial et surtout pas de débordement. Nous, on n'est pas du tout dans le débordement dans le hand. Il y a des grosses valeurs dans le hand et là-dessus, on n'en démordra pas. Il y a personne qui mettra à côté, ça c'est clair.
Tu parles justement du côté convivial. Pour moi, c'est le premier groupe de supporters que j'ai vu dans les différents sports qui est aussi proche des joueurs. Comment t'expliques ça? C'est spécifique au handball ou c'est vraiment spécifique aux Gladiators?
Alors te dire si c'est spécifique au handball, je sais pas. En tout cas, nous, on a vraiment une volonté. Je te dis, on travaille vraiment beaucoup avec le club dans ce sens-là, mais de manière simple. Je veux dire, nous, on n'impose rien. C'est peut-être aussi ça qui fait notre richesse. Et clairement, les joueurs le ressentent, qu'on les soutient à fond et qu'on les lâchera jamais. Donc clairement, c'est peut-être aussi ça qu'ils cherchent. Et ils voient en nous, en fin de compte, de par les différences d'âge qu'il peut y avoir, quelque chose qu'ils recherchent aussi au niveau d'un club, une convivialité qu'ils peuvent retrouver au niveau des supporters, donc au niveau de nous, mais aussi au niveau des bénévoles que j'oublierai pas parce qu'ils font un travail merveilleux, quoi.
Chris, t'as peut-être 2-3 questions.
Alors moi, j'ai une question. On était en train d'en parler en off. Est-ce que vous avez des relations privilégiées avec la direction et notamment le monde du transfert? Est-ce que vous avez l'avant-première sur quel joueur est pisté ou pas, qui va signer dans les quelques heures?
Non, nous on veut vraiment pas s'en mêler de ça parce que là c'est vraiment purement dans le staff et c'est des questions qui sont très techniques. Okay. Nous on veut pas on veut pas qu'il y a des informations qui restent confidentielles, en être au courant. Nous on est des supporters. Alors je te dis pas que quand on nous met des indices sur sur internet, on va essayer de gratter l'information, mais pas au niveau de la direction. Okay. Et au niveau des Septors ou quoi que ce soit, c'est nous qui allons chercher, qui allons faire des regroupements d'informations pour se dire peut-être que là lui c'est peut-être lui qui va venir. Donc à chaque fois c'est un peu le mercato, c'est un petit peu le côté où nous on kiffe un petit peu et où on va essayer de chercher qui va venir chez nous ou pas l'année prochaine. Mais en tout cas on viendra jamais embêter la direction par rapport à ça parce qu'ils font leur travail et nous en aucun cas on veut les mettre en porte-à-faux par rapport à ça.
Okay. Si je peux faire une petite parenthèse, après je te redonne la parole, Chris, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'arrivée de Nikola Matovic, le gardien des Septors, où il n'y avait aucune vidéo et on ne savait rien, et finalement c'est le meilleur gardien de Pro League, je pense qu'on peut le dire.
Alors, te dire s'il n'y avait aucune vidéo, comme je te disais tout à l'heure, j'en ai aucune idée. Je pense que si la direction le recrutait, c'est qu'ils avaient des informations que nous, on n'avait pas. Alors, certes, il ne jouait pas. Il était numéro 2 au niveau de l'équipe nationale du Monténégro, mais ça restait un gros gardien. Moi, j'ai fait confiance, en tout cas, au club quand on l'a recruté. Et clairement, on le voit, et encore hier soir, on l'a vu, que c'est quelqu'un qui est très, très fort. Donc, en plus, bon, voilà, titre personnel, je sais que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, tout comme Luka Radović, parce que c'est des Monténégrins et j'adore les Monténégrins. Donc, mais c'est des gars qui sont bien. Et puis, quand Luka nous en a parlé, quand il est arrivé, tout de suite, c'est t'inquiète pas, GG, il est fort. Ouais, forcément, il est fort et il est avec toi. Donc, j'ai dit non, moi, je fais énormément confiance au club. Le club, s'il le recrute, c'est qu'ils vont pas faire n'importe quoi. Et clairement, là-dessus, ils ont eu complètement raison, quoi.
Guillaume, est-ce que tu veux intervenir là-dessus ?
Ouais, moi j'aimerais bien revenir sur la convivialité avec les joueurs dont tu viens de parler. Comment cette convivialité, vous la mettez en scène en fait avec les joueurs ? Est-ce que vous avez des soirées cohésion avec des partenaires, les joueurs ? Est-ce que après les matchs, vous avez accès, pouvez parler avec les joueurs ou...
Totalement, on se refuse rien. Donc aussi bien par les réseaux sociaux, on va beaucoup échanger avec eux. Il faut savoir que c'est des êtres humains. Donc clairement, quand on voit comment ils peuvent être dénigrés par moment sur les réseaux sociaux, bah, nous on est là, c'est notre rôle aussi d'aller vers eux pour leur dire la vérité également sur les matchs, mais également pour leur dire que voilà, ne t'inquiète pas, certes c'est ta profession, ça reste qu'un match, il ne faut pas que l'homme soit touché. Et donc ce côté-là peut-être aussi a énormément plu. Et clairement, et c'est aussi pour ça que la direction nous laisse aussi, on va dire entre guillemets, carte blanche sur les soirées qu'on peut faire avec eux. Comme là dernièrement, on a été voir un entraînement, à notre demande, on a été voir un entraînement des joueurs, et ensuite on a terminé par un petit apéro dînatoire, voilà, sans abus, parce que forcément ils avaient match quelques jours après. Mais voilà, on a des échanges assez particuliers peut-être par rapport à d'autres sports, mais en tout cas ça reste toujours dans le côté convivial, et ça on n'en demordera pas qu'on restera, de toute façon, en tout cas tant que je serai président de l'association, toujours dans ce côté là voilà. Moi c'est important pour le groupe Les Gladiators, mais je pense que c'est important aussi pour les joueurs, et ça ils nous le disent assez régulièrement.
Ok, moi j'avais une petite question, là je vais moins parler de l'association mais plus des hommes et des femmes que vous êtes dans l'assaut. Qu'est-ce qui vous a vraiment passionné pour le handball? Est-ce que vous en avez fait, vous, avec vos amis en club, ou même les femmes qui font partie de votre asso, elles en ont fait aussi, toi, personnellement?
Alors, je sais qu'on va... Je te reprends deux minutes parce que sinon tu vas te faire chambrer.
Ah.
Alors, on parle pas de handball, mais de handball.
De handball.
Donc, je préfère te dire parce que je sais très bien que ça va être écouté. Oui, sinon, ouais. si je le dis pas, je vais me faire un petit peu clasher. Donc, donc ta question en gros c'était de savoir comment. Non, caca, parce que je sais que derrière je vais peut-être en avoir aussi. Donc, en caca. Mais voilà, mais en gros ta question c'était de savoir un petit peu, est-ce que j'ai fait partie d'autres associations, de choses comme ça.
Non, est-ce que toi tu t'es passionné pour ce sport-là quand tu étais jeune, est-ce que tu en as fait, est-ce que les amis qui sont avec toi, eux aussi, en ont fait?
Alors, moi j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Après, je me suis lancé sur un autre sport, le basket pendant des années. Et donc, moi, le hand, j'ai toujours suivi parce que mon oncle était en fin de compte président de. Donc, avant que ça s'appelle le Saran Loiret Handball, c'était l'USM Saran, donc était président de l'USM Saran. Et m'emmenait voir les joueurs de l'époque, donc Duarte d'Acosta, qui est également maintenant un dirigeant des Sceptors. Et moi, je faisais le petit serpillard rose, quoi. Donc, voilà. De temps en temps, je faisais le petit serpillard rose, j'avais ma petite canette à la fin, j'étais content. Okay. Et ça m'a passionné, en fin de compte, comme ça. Et puis, voir les.
C'est une histoire de famille.
Ouais, clairement, c'est une histoire de famille. Et puis, moi, voilà, ils m'ont emmené avec eux. Je venais les voir après au Saran Loiret Handball. J'ai emmené ma chérie. Et puis, après, quand je postais des vidéos, ou des photos, des choses comme ça sur nos réseaux, ou en tout cas qu'on en parlait avec les copains, on a intéressé les amis. Les amis, ça leur a plu. Et puis, après, au fil en aiguille, c'est comme on disait tout à l'heure, comment l'association s'est créée. Voilà, en partant de 3, 4 à 10 copains jusqu'à maintenant 86 personnes. Quoi.
C'est génial.
Moi, je vais revenir maintenant sur un peu le cœur de l'ambiance chez les Gladiators. Est-ce que vous avez senti déjà une différence d'ambiance ou avec la relégation en Pro League qui a eu lieu cette année ou pas?
Alors, une différence d'ambiance avec les joueurs ou au sein de notre entité?
Une ambiance globale dans les salles, etc.
Alors non, parce que nous on reste nous-mêmes, et puis clairement je pense que on est dans notre rôle de supporter, de supporter et de ne pas les lâcher, comme on dit à chaque fois, qu'ils soient dans les bons ou dans les mauvais moments. Là c'est vrai que la descente c'était pas prévu, mais clairement si on les lâche là, ça veut dire que on n'aime pas le club. Ça fait partie du sport également de descendre, on l'a vu dans n'importe quel sport. Donc maintenant, c'est si on les lâche et qu'on n'est pas passionné par le hand, on n'est pas passionné par les septors. Et clairement, moi, je sais qu'à titre personnel et avec le groupe, nous, on n'est même pas dans cette physionomie-là. C'est qu'on les défendra voilà, quoi qu'il se passe. Là, à l'heure actuelle, on sait qu'ils ne font pas forcément des bons résultats, et ça serait mentir de dire à l'inverse qu'ils en font. Et ben, on les soutient encore et puis on ne les lâchera pas, parce qu'on sait, on a vraiment conscience de ce potentiel-là. Et clairement, voilà, la descente, ça fait partie du sport, et ce n'est pas pour autant qu'il faut les abandonner, quoi.
Tout à l'heure, tu nous parlais du lien avec les joueurs. Est-ce que tu peux nous parler des bonnes gueules, l'artisan qui est, il me semble, un ancien joueur des Septors et maintenant association en lien avec les Septors?
Alors, les bonnes gueules. S'il écoute, il va rigoler.
Je pense.
Alors, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, parce qu'il y a Adrien Ramon et Johan Caron, c'était deux anciens joueurs des Septors. Adrien, lui, était le capitaine jusqu'à la saison dernière. Voilà, il a pris sa retraite, et Johan, c'était la saison d'avant. Le lien qu'on peut avoir avec eux, c'est des liens déjà très, très, très amicaux.
Très festifs.
Ouais, très festif, et puis c'est des mecs en or. Ouais. Clairement, c'est des mecs en or. Nous, je sais qu'on fait beaucoup de choses également avec eux. Ils nous ont également aidés à nous payer, en fin de compte, nos t-shirts également. C'est des mecs voilà, qu'on a pratiquement toutes les semaines, en tout cas par SMS. Voilà, nous, je sais que voilà, on a une approche avec eux qui est vraiment très, très amicale, quoi.
Tout à l'heure, tu nous parlais de la halle. Et comment tu vois cette évolution des Septors? On est quand même passé de la halle à Saran à Comet. On va parler forcément de Comet. Qu'est-ce que vous, ça change dans votre manière de supporter? Parce que c'est passé très vite quand même. En quelques années, une toute petite salle à plus de 9000 personnes. C'était il y a combien de temps? Il y a deux semaines pour un match de Pro League.
Oui, donc... Même sur les derniers Comet, hein, les derniers Comet qu'il y a eu, si je me rappelle bien, c'était peut-être, comment il s'appelait, Gims. Je crois quand ils ont fait le showcase de Gims, je crois qu'ils ont fait 9000 aussi. Maintenant, te dire comment nous, on l'a perçu. De toute façon, on n'est pas là pour prendre les décisions, ça reste les Septors qui prendront les décisions. Nous, on passe d'une salle de 1000 à la halle. À 9000 au Comet, donc on doit s'adapter. Donc s'adapter sur un plan de vue, petite manifestation dans les tribunes. Donc en lien avec les Septors, par exemple cette année, on a pris les têtes. Donc les Septors qui nous ont acheté les têtes. Donc c'est ça qui ça donne une petite ambiance rigolote. Et voilà, on le voit en direct parce qu'on a le camarade également qui a son PC à côté.
Là, je suis sur Facebook et je te vois souvent et là je vois les têtes et c'est vrai que c'est sympa.
On s'adapte en fin de compte à la superficie. La pièce, et puis en même temps on va chercher le public avec le mégaphone pour essayer de créer une ambiance conviviale, et puis quoi qu'on en dise, en tout cas les gens ils sont là pour la fête, donc même s'ils connaissent pas comme au Comet la plupart le hand, ils sont venus pour le showcase, c'est peut-être une vérité, mais c'est une stratégie du club aussi de se dire on a un sport qui est méconnu dans le département, et on va créer quelque chose pour essayer d'attirer le plus de monde possible, et donc au niveau du palais, pour remplir le palais, et en même temps faire connaître ce beau sport qui est le handball. Non, je rigole, le handball.
Est-ce que tu peux nous parler, Chris, je te donne la parole juste après, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec le speaker des Septors, Kevin, qui à Comet et au Palais, c'est pas forcément la même chose, c'est pas la même dimension. Quel est votre lien ensemble? Je sais que vous entendez quand même très bien.
Ouais, Kevin, on s'entend très très bien et je lui fais un gros bisou parce que je sais qu'il va nous entendre également, et en tout cas il va nous écouter. Kevin, c'est en fin de compte, c'est un mec qui est en or. Je sais que quand il est venu chez les Septors, il connaissait pas grand chose au hand, et au fur et à mesure du temps, en fin de compte, il est venu nous voir, il nous a posé. C'est quelqu'un qui pose énormément de questions pour savoir comment ça se passe, pour créer en fin de compte sa fiche et son programme de match. Donc c'est quelqu'un qui a pas peur de se remettre en question, qui a pas peur de venir poser des questions. voilà, c'est un gars en fin de compte que moi que j'apprécie énormément, que je tiens dans mon cœur, et clairement il arrivait dans un contexte qui était aussi un petit peu compliqué, dans le sens où bah voilà, notre un de mes meilleurs amis, Francis, qui était voilà, qui était speaker à l'époque, qui est malheureusement décédé d'un accident de vélo, donc en juin dernier, et voilà, qu'on apprécie énormément, hein, et il a pris le relais de Francis, qui était vraiment quelqu'un de très très lourd, et même lui le dit, parce qu'il foutait une ambiance du tonnerre, si je peux me permettre ce terme-là.
À la halle, c'était exceptionnel.
C'était exceptionnel avec lui, quoi. Et bah, Kevin, il arrivait dans ce contexte-là où on avait Francis, et Kevin qui arrive avec ce petit bout de bonhomme qui ne connaissait pas du tout le hand, et qui était peut-être un petit peu perdu au départ, mais qui s'est, en espace de quelques temps, bah, qui a créé quelque chose de merveilleux. Et puis il nous cherche sans arrêt sur les matchs. C'est un speaker en fin de compte qui pour moi est complètement complet, et il est exceptionnel. Voilà.
Vas-y Chris. Ouais.
Les soirs où il n'y a pas des showcases, est-ce qu'il y a quand même une troisième mi-temps, la traditionnelle troisième mi-temps, entre où, entre supporters?
Alors ça, j'ai rien le droit de dire.
Ça c'est privé.
Non, bien sûr. Bien sûr, on l'a vu hier, on a posté également
photos sur Instagram. Fait petit instant promo quand même, si vous voulez aller suivre totalement. Les gladiateurs sur Instagram, n'hésitez pas.
Ouais. Bah, allez sur Facebook, il y a absolument tout. Il y a le mail, il y a aussi Instagram, et puis il y a même un site internet.
Alors, qui va peut-être voir le jour. Pour l'instant, on l'a pas encore le site internet, mais en tout cas Insta et Facebook, on est beaucoup là-dessus. Alors même si on m'a dit que Facebook maintenant c'était un peu pour les vieux, donc ça c'est mon fils qui me l'a dit, donc je le remercie. Mais en tout cas, on poste beaucoup de choses, parce qu'on veut faire voir un petit peu ce que nous on fait dans un premier temps, et en même temps comment on vit au sein des Septors. Et clairement, voilà, nous, la troisième mi-temps, bah voilà, elle est toujours après, bah, forcément après le match, mais elle peut être aussi avant le match. Voilà, on la commence également.
Avant, après.
Voilà, elle est même pendant par moment, mais c'est toujours dans la bonne ambiance. Et puis voilà, comme la photo qu'on a postée, c'était hier ou peut-être tout à l'heure, je crois, ce matin.
Non, c'était ce matin, c'était il y a 4 heures.
C'était voilà, donc c'était aujourd'hui. Où on se rassemble avec les bénévoles, et ça c'est hyper important pour garder le côté familial du club.
Est-ce que tu peux nous parler de la suite de la saison? Il y a eu la victoire contre Cesson Rennes en Coupe de France, 16e de finale. Il y a le match contre le PSG qui arrive, ça va être aussi une super ambiance, ça.
Ouais, totalement.
Au Palais, en plus, c'est pas
correct. Ouais, totalement. Non, le match contre Cesson, c'est ce que je dis là depuis quelques temps, il est très révélateur sur l'équipe. Je dis ça parce que actuellement, on a beaucoup de blessés. Et quand on n'avait pas de blessés, ça se passait comme contre Cesson, donc c'est-à-dire gagner des gros
Cesson, qui est une équipe de Star League qui se maintient plutôt assez facilement chaque année, donc une grosse victoire.
Exactement, c'est une très grosse victoire. Donc, et là, on avait tous nos joueurs. Donc voilà, ça rentre en ligne de compte le fait que les résultats ne suivent pas pour l'instant, mais j'en suis sûr que ça va. Voilà, comme je dis depuis tout à l'heure, voilà, il y a la pluie, mais après il vient le beau temps. Donc il faut laisser le temps au temps. L'équipe aussi était construite cette année à 70%. Il y avait à peu près 70% des joueurs qui sont partis par rapport à l'année dernière, donc 70% d'arrivée. Donc il faut que l'équipe apprenne aussi, il faut qu'elle se construise. Donc ça prend du temps, et c'est pas en 3 mois qu'on construit une équipe. Il faut être très réaliste aussi. Donc il faut laisser aussi un petit peu de temps, même si on a des ambitions qui sont hautes. C'est-à-dire remonter rapidement en D1, mais il faut aussi prendre le temps de construire cette belle équipe.
Est-ce que tu peux nous parler maintenant du futur Comet? C'est mi-décembre, il me semble, contre Dijon.
Oui, c'est le 20 décembre avec le showcase de Matt Pokora. Donc, si j'ai bien suivi, parce que moi je mêle pas de ce qui se passe chez les Septors au niveau administratif, mais en tout cas j'ai cru comprendre que c'était sur les réseaux sociaux qu'ils avaient déjà vendu énormément de billets, donc n'attendez pas trop. Nous on se trouvera dans la tribune 110 et 111, donc dans le bloc 110 et 111, donc c'est juste les blocs derrière les buts. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, allez sur le septor.fr dans la billetterie pour prendre vos places, parce que clairement ça part très très vite, et là dessus on vous ment pas, vous pouvez le voir de vous même.
Bah, on vous tiendra au courant. En tout cas, s'il y a des offres, si jamais dans la prochaine émission qui arrivera en novembre et même en décembre, on sera là chaque mois sur Radio Campus. On va se quitter quelques instants avec une pause musicale. Tout de suite, on va écouter David Walters et son Sam Cooke dit.
tout ça me copie. Changement pour vini. J'suis mis en Jacques tracé. Bagaille pour changer. Tourner puis la rage. Tourner dans la pluie. Calabé vieux le ré. La chance péqué viré. Nous les fait ça nous les. Mâche quand nous les. Allez là nous les. Thank you.
tail just la-la-la-la. Just like this rainstorm, I saw this day song. I dream of places far beyond. Ouvindo a chuva cair no cinza um brilho aqui. Fico sozinha, distraída.
Sur Radio Campus pour la première de Champion des Ondes. À l'instant, c'était Bebel Gilberto avec son son August Day Song. Tout de suite, on va passer au calendrier avec toi, Guillaume. Qu'est-ce qui se passe prochainement dans la région?
Ouais, bah écoute, on va faire honneur à notre invité du soir. On va commencer par les Septors. Donc pour rappel, hein, les Septors se sont malheureusement inclinés hier soir au Palais des Sports contre l'équipe de Nancy sur le score de 31-32. Donc un début de saison qui est assez mitigé, un début en fanfare avec 3 victoires consécutives et là 3 défaites sur les 3 derniers matchs, des blessés en pagaille et un nouveau coach donc qui devra imprimer sa patte durant la saison. Et donc le prochain match, le 1er novembre prochain, dans la salle d'Angers, un déplacement à Angers qui est dernier du championnat avec une seule petite victoire, donc une victoire quasi obligatoire presque pour les Septors qui pourront compter sur l'arrivée d'Alban Simonet qui est arrivé très récemment, qui a disputé son premier match hier et qui devra s'incorporer à cette équipe et qui va apporter tout son talent à l'équipe.
Et ils pourront aussi compter sur les Gladiators, car vous y serez, j'y serai aussi, mais ça doit être cool quand même de venir et de se déplacer jusqu'à Angers.
Ouais, totalement. Déjà parce que on y va parce que c'était déjà un déplacement qu'on avait prévu, mais également parce que, et d'autant plus là, le fait qu'ils aient perdu, nous on veut leur montrer notre soutien et dans cette phase un petit peu difficile pour eux, et leur montrer qu'on les lâchera pas et que voilà, je sais qu'ils vont tout donner sur le terrain, c'est des guerriers, ils vont remonter la pente assez rapidement.
Et entre autres, après ce mois de novembre avec 4 matchs, il me semble. Un mois de décembre chargé avec notamment la réception du PSG Handball en Coupe de France le 11 décembre au Palais des Sports, puis la réception de Dijon à Comet avec la venue d'un certain chanteur. Je laisse Chris, je vais pas spoiler pour le quiz.
Ça a été dit. Ça a été dit de toute façon.
On l'aurait eu vite. Hein.
Donc les Deceptors qui vont devoir remonter la pente après quelques défaites consécutives. Maintenant, on va passer au RCO, un début de saison, comme on l'a dit tout à l'heure avec Malo, un début de saison canon pour le RCO, qui est premier de sa poule à égalité avec Rennes et qui recevra donc le samedi prochain, le 2 novembre, au stade Marcel Garcin, les Savoyards de Rumi, un adversaire plutôt inconnu du RCO, des Savoyards qui vont devoir faire de la route pour venir, et qui auront, donc eux qui sont classés 10e, hein, et qui auront pour objectif de chercher une première victoire hors de leur base. Ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur, mais ça pourrait être un match piégeux. Donc l'objectif sera de poursuivre un début de saison presque idyllique pour les hommes de Romain Cabanne et continuer une invincibilité qui tient depuis plus d'un an à Marcel Garcin, et à noter aussi le match des espoirs à 18h, aussi invaincu depuis plus d'un an, demi-finaliste l'année dernière de Fédéral 1 et premier de leur poule avec un jeu magnifique et un effectif jeune. On peut passer au basketteur, à l'OLB, qui joue ce soir à Comet contre l'équipe de Hier Toulon.
Pour les auditeurs, c'était il y a deux jours. Comme je vous l'ai dit au début, c'est préenregistré. Pour la suite, on sera en direct, mais on n'a pas encore le résultat de l'OLB, mais on est sûr qu'ils vont gagner.
Ouais, c'est vrai qu'à
tout moment, on espère.
En tout cas, on espère.
Moi, je connais le score, si vous voulez, je connais le score.
Une équipe de l'OLB qui est plutôt solide à domicile, donc qui devra jouer contre une équipe promue cette saison en Pro B, qui est classée à la 17e place au classement en Pro B, mais qui reste sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et surtout, pour les joueurs de l'OLB, attention à ne pas se focaliser, à se projeter sur le déplacement à Blois mardi prochain contre une équipe de Blois qui est invaincue, 7 matchs, 7 victoires. Donc attention à ne pas se voir déjà au prochain match et à assurer cette victoire ce soir pour préparer ce déplacement à Blois. Pour les joueurs de l'USO qui se sont imposés mercredi soir sur leur pelouse contre Bourg-Péronas dans un match poussif, il me semble.
Ouais, un peu compliqué.
Où les 3 points étaient le plus important pour rester au contact des leaders du championnat. Donc un début de saison qui est positif pour les joueurs de l'OLB, de l'USO. 3e au classement, 5 victoires, 3 matchs nuls en 10 matchs. Dans un championnat national très dense,
très compliqué,
où beaucoup d'équipes ont pour ambition de monter en Ligue 2, notamment Nancy ou encore Concarneau qui redescend cette saison et qui veut monter dès cette saison. Et donc prochain match à l'extérieur sur la pelouse de Quevilly le 2 novembre. Puis pour voir les joueurs de l'USO sur la pelouse du Stade de la Source, il faudra attendre le 6 décembre prochain pour les voir jouer contre le Paris 13 Atlético qui est en difficulté au classement. Donc l'objectif là, c'est surtout de continuer un début de saison qui est plutôt positif et continuer sur cette lancée pour éventuellement
jouer une place de barrage ou même de montée. On croise les doigts.
Ce serait un sacré résultat pour les joueurs de l'USO, mais on espère pour eux et on croise les doigts comme tu l'as dit Malo. Concernant les Panthères de Fleury, donc on en a parlé tout à l'heure, un début de saison très positif pour un effectif qui est relativement jeune. Qui joue donc cette saison en National 1 et qui aura un prochain match le 2 novembre prochain également contre l'équipe du Rosende du 29 qui est donc une équipe bretonne située à côté de Quimper qui est deuxième du classement. Donc là aussi un gros match, un choc pour les Panthères devant leur public. Et enfin les Comètes, les Volleyeuses qui ont un début de saison relativement compliqué avec 3 défaites en 4 matchs et qui se déplace ce soir donc, dans la salle d'Evreux, qui est invaincue dans cette poule. Donc là aussi, encore
très compliqué.
Un choc pour elle, mais qui pourrait permettre, pourquoi pas, de lancer une dynamique positive et lancer une série de victoires. Et donc leur prochain match à domicile, le 2 novembre, contre Tremblay, qui connaît également un début de saison mitigé.
Merci beaucoup Guillaume, on va passer au jeu maintenant avec Chris. Bon, apparemment on a déjà révélé réponse de ce questionnaire.
Malheureusement.
J'y répondrai, moi, comme ça j'aurai une bonne réponse. Quoi.
Tu vas en avoir.
Est-ce que tu peux nous expliquer ton jeu Chris?
Alors c'est très simple, hein. Là j'ai des questions, donc ça va monter un petit peu en difficulté au fur et à mesure des questions. Et chacun va pouvoir répondre, le plus rapide répond en premier forcément. Et si il répond bien, il a un point, celui qui remporte... La mise, tant mieux pour lui.
C'est des gros
bravo. Bravo à vous. Allez, on commence. Vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, ça sera un petit peu sur l'événement qui s'est déroulé cet été en France, donc c'est-à-dire les Jeux Olympiques, mais aussi l'actualité et surtout les sportifs locaux. Allez, on commence, c'est très facile, c'est vraiment pour mettre dans le bain tout le monde. Quel est l'athlète français qui a remporté la médaille d'or au judo chez les hommes?
Teddy Riner.
Voilà,
il y en a plusieurs,
Mais bon, là, c'était l'affiche. Ok, un peu plus dur, mais pas pour vous. À quelle place a fini l'OLB au classement de la saison régulière l'année dernière?
8e.
Ils
ont joué les playoffs.
Ça,
je sais, ils ont joué les
playoffs.
6e. Après, c'était plus compliqué.
5e.
Non.
Bah, il va tout dire.
4e.
Ah, il a tout dit.
Arrête.
Bravo. On va applaudir. Du coup, ouais, c'est fort.
On donne le point parce que t'as été plus rapide. Donc, oui, 4e derrière La Rochelle, Vichy et Boulazac. Ok. Alors là, c'est très simple aussi. Quel nageur français
Léon
a
Marchand.
Pris Voilà.
Yes.
Wow, mais qu'est-ce que je fais, moi?
Je sais même pas. J'avais pas les questions.
Ok. Bon.
Qu'il lui a donné de l'argent.
Oui,
j'ai failli dire Léon Marchand avant, en plus. Pré-shot, et je savais vraiment pas.
Quelle est la date de création de l'US Orléans?
C'était il y a longtemps, ça.
Ils doivent fêter leur anniversaire, non date, il y a pas... Si tu poses la question.
Non, vraiment. En plus, c'est assez récent pour un club de foot.
Je dirais 1960.
C'est 20e siècle déjà.
C'est le 20e, ouais.
1965.
Non.
75.
70.
Non.
78.
Un peu plus, un peu moins.
Un peu plus.
1980.
4... Non, moins. 4...
78.
77. 76.
76, bah, voilà.
Je le savais, voilà.
C'est en 1976 où, en fait, va y avoir l'Argosport orléanais, qui est un petit club aussi créé au cours du XXe siècle, qui va fusionner avec un autre club légendaire l'US Orléans. Et c'est réellement en 1976 de l'histoire de l'US Orléans. Ok, on monte un petit peu au niveau. C'était assez compliqué celle-ci, je suis d'accord. Alors, combien de médailles la France a obtenues au JO? C'est récent, les gars.
60, non, 70.
Un peu plus.
Un
peu moins de 80.
Non.
78.
Un peu moins.
78.
Non. Non, c'était vraiment, on part sur les 60.
67.
Ah ouais.
Non.
65.
Non, pas loin.
66. 64, non. Alors.
64. Ok, 64. Donc, c'était magnifique.
Au juste prix, j'étais fort.
Malheureusement, il y en a pas eu en...
Bon, on reste sur la même ligne. Donnez-moi le détail du nombre de médailles.
Juste l'or, on fait l'or.
Ok, allez, l'or. Okay.
Parce qu'il nous reste 2 minutes.
Okay.
L'or, il y en a eu combien?
Il y en a eu 15, non?
On a fini 5e, non?
Non,
pas fini 5e.
14? 16 alors.
16, voilà.
Il est fort.
Je suis pas fort parce que j'avais pas eu bon du premier coup.
Ouais, mais incapable de te dire combien.
Bon, la question à 1 milliard. Oula. Quel est le chanteur qui viendra après le match des Septors face à Dijon?
Gros
le 20 décembre prochain.
Alors,
Angèle.
Allez, c'est pour ma chérie parce qu'elle l'adore, c'est Matt Pokora.
C'est pas comme si tu avais donné la réponse.
Non, pas du tout, mais je l'ai su par les réseaux sociaux.
Très bien. Bon bah merci beaucoup en tout cas Jérém d'être passé. Merci Chris pour ton super jeu, merci Guillaume aussi pour le calendrier. C'était la première de Champion des Ondes. J'espère que cette émission sport vous aura plu. On est sur Radio Campus. On va continuer donc tout au fil de l'année, tout au fil de la saison, une fois par mois, à se retrouver ici donc à Radio Campus. On se retrouvera donc le lundi 25 novembre, cette fois en direct à 21h sur Radio Campus. Merci donc à vous trois et à vous quatre. Thomas à la régie, je te salue. Tout de suite, vous pouvez retrouver Tentaculation sur Radio Campus Orléans 88.3.
Champion des Ondes, votre rendez-vous sportif mensuel sur Radio Campus.